Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb et ce soir nous allons parler de fantastique, de sorcières, de femmes, de jeunesse, de plein de choses. Mais tout d'abord, attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G, c'est l'heure de la case de Seb. Seb au micro, nous sommes ensemble pendant une heure et par le truchement des ondes radiophoniques, on va propulser dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, je le redis, et je suis en compagnie ce soir de Corentin. Bonsoir Corentin.
Bonsoir Seb.
Alors n'hésite pas à parler bien proche de ton micro.
C'est bon, on m'entend bien comme ça?
On t'entend très très bien.
Parfait. Bah, bonsoir à tous.
Et bienvenue. Alors, c'est pas la première fois que tu viens dans l'émission, mais c'est la première fois que tu parles.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu fais avec moi ce soir? Dis-moi.
Alors, ce soir, je t'accompagne justement sur les BD, un peu sur le thème médiéval. Je viens découvrir aussi un peu le monde de la radio. Et passionné d'écologie aussi. Peut-être prochainement, je serai amené à faire des chroniques sur le domaine environnemental sur des BD.
C'est clair. Alors, comme je suis un peu feignant, en fait, je délègue mon boulot en donnant des BD qui correspondent à la thématique de prédilection à Corentin, et puis il va me faire des chroniques dessus. Donc, effectivement, comme tu disais, thématique écologique. Ta formation exacte, tu peux redire?
Alors, moi, je suis en licence professionnelle MPGE, donc métier de la protection et de la gestion de l'environnement, à la Catholique, donc l'Université catholique de l'Ouest, à Angers.
Et donc, effectivement, ouais, l'écologie, c'est ton dada à fond.
Tout à fait, c'est tout à fait ça.
Super. Ce soir, on va en parler pas du tout, parce que j'ai pas de BD. Ah si, il y a une BD qui va peut-être en parler un petit peu, mais je te laisserai la surprise par là. Le but de ta présence, si ça te convient, c'est qu'on va pouvoir échanger alors sur différents types de bandes dessinées. On a déjà discuté, hein, parce qu'on est collègues de travail. Hein. Voilà, attention, c'est pas très... Ah, c'est pas grave, ça arrive même à des gens bien, la preuve. Et tu me disais que tu lisais pas beaucoup de comics.
Non, je suis pas forcément aujourd'hui un grand lecteur de comics. Mais quand j'étais plus jeune, je lisais certaines BD. Notamment, comme tu as pu voir, si je peux dire, le jeu Les Légendaires. Donc les BD Les Légendaires.
Tout à l'heure, pas trop. Ouais, on ne spoil rien, pas les auditeurs. On a fait du teasing, on parlera forcément des Légendaires. Voilà. Tout à l'heure, mais d'une manière que vous attendez peut-être pas forcément. Mais effectivement, ouais, plus un peu de manga, un peu de comics, un peu de BD franco-belge, mais presque pas de comics, hein, c'est ce que tu me disais.
Ouais, c'est ça, surtout de la BD. Les mangas, je suis pas forcément quelqu'un qui lit beaucoup les mangas. Alors peut-être aussi par un peu un manque de temps avec les études en ce moment, plus le travail. Voilà, faut dédier un peu de temps aussi pour lire.
C'est ça, il faut un petit peu de temps pour pouvoir se consacrer à la lecture et puis en profiter pleinement. Voilà, bah, ce sera un petit exercice qu'on va pouvoir se donner. On va se le garder. On va se garder la grosse boîte pour après. On va commencer à parler déjà un peu de jeunesse avec deux mangas qui, moi, m'ont beaucoup plu. Et puis une BD franco-belge qui doit même être pas franco-belge, mais c'est pas grave. Je vais trop vite. Le stress, on parle trop vite. Et puis on oublie de respirer, ce qui est dommage. Là, c'est pas de l'écologie, mais c'est physiologique. Hein. Si on ne respire pas, on devient bleu et on meurt. C'est un peu dommage.
C'est un peu radical.
Ouais, mais ça peut arriver. Si vous voyez des gens qui deviennent bleus, surtout. Bon, bref, on est parti sur des délires. je vais commencer avec deux premiers mangas. Celui-là, je vais le garder pour plus tard. avec un manga qui s'appelle Boken Shonen, Rêve d'enfance. C'est de Mitsuo Adachi, c'est publié aux éditions Nobi Nobi. Je vais te laisser donner un peu ton avis dessus avant de parler de mon avis. Est-ce que tu peux éventuellement décrire la couverture et puis nous dire ce que t'en penses, comme ça, si tu tombais dessus en librairie?
Ah bah, la couverture est assez simple, hein. On voit un petit garçon derrière, devant plutôt un gros bidon. Et sur ce bidon, on peut voir un petit dessin. Donc, mon imagination dirait une sorte de parapluie avec une poussette et une petite, un petit ventilo derrière. Donc, c'est assez intrigant. Et surtout, rêve d'enfance. C'est assez intrigant aussi, rêve d'enfance, savoir de quoi ça parle. Est-ce que c'est ce jeune homme des rêves d'enfant qu'il a pu faire? Ou est-ce que c'est plutôt qu'est-ce que lui, il a pu imaginer quand il était enfant? Et ce manga raconte, je sais pas.
Eh ben, t'es pas loin de tout ça. Puisqu'en fait, Rêve d'enfance, c'est un recueil de nouvelles en manga qui parle de l'enfance et des souvenirs de l'enfance. Il y a 5 nouvelles, si je me trompe, et dans ces nouvelles, on va suivre des personnages qui vont se replonger dans des souvenirs avec une petite dose de fantastique. Et on va, il y a une espèce de nostalgie qui nous envahit en le lisant, qui est vraiment très très agréable et qui est vraiment très sympa. Je vais pas vous résumer les 5 histoires, mais imaginez par exemple un groupe d'amis qui se rendent voir quelqu'un qui est un de leurs anciens amis, mais qui est un peu plus isolé. Et puis sur la route, ils parlent forcément de cet ami qu'ils ont laissé un peu de côté et de ce qui a pu se passer pour qu'il le laisse de côté ou que lui reste dans sa campagne alors que les autres sont partis à la ville. Et puis il y a aussi cet ami qui faisait partie du groupe qu'on évoque et qui a subi un destin tragique. Mais quel est ce destin? Eh ben ça, je vous laisserai le découvrir. On peut avoir aussi ce salaryman qui retourne dans sa ville natale et puis qui l'a abandonné parce qu'il a bien évolué, il a bien grandi, et puis qui en fait va faire un grand bond dans le passé par une petite pointe de fantastique, mais ça marche très très bien. Le dessin est assez, ce que je trouve assez étrange, c'est qu'on est sur un dessin qui est hyper réaliste au niveau des décors. Il y a vraiment beaucoup de travail. Il y a des passages de forêt où limite on se sentirait projeté directement dans la forêt pour pouvoir vraiment découvrir et puis sentir le bois et tout ce qui se passe autour. On a des environnements urbains qui sont très bien représentés. Et puis on a des personnages qui ont des têtes un petit peu décalées, un petit peu... Il y a un côté un peu cartoon qui sort de ça. Je sais pas si c'est ce que tu ressens en le feuilletant comme ça.
Ah bah si tout à fait. Quand on regarde les bâtiments, on voit que ça a été très bien dessiné. Vraiment le côté les ombres, c'est vraiment très qualitatif. Et c'est vrai que quand on regarde les têtes des personnes, elles ont pas forcément de rides ou comme par rapport au bâtiment, elles ont pas forcément d'ombre. Donc ça reste quand même des dessins, je trouve, assez simples au niveau des visages. Alors que oui, les bâtiments, là je tombe sur une page par exemple. Où on voit une fenêtre cassée, et vraiment on a le détail des carreaux cassés. C'est vraiment intriguant parce qu'il y a quand même une certaine différence entre les bâtiments, l'environnement en général et les personnages.
C'est vrai qu'il y a ce décalage. Alors je pense que les visages. Alors j'imagine déjà que ça doit être compliqué à dessiner. Hein. Je rappelle aux auditeurs que je ne dessine pas pour une très bonne raison, c'est que je suis incapable de rendre visuellement ce que j'ai dans la tête. Donc plutôt que de m'acharner dessus, je fais un constat d'échec et puis je préfère mettre en avant les gens qui le font bien. Et là effectivement, ce qu'on voit avec l'auteur de Boken Shonen, c'est que lui a peut-être aussi ce souci au niveau des visages et a du mal à les dessiner pour arriver à faire quelque chose de réaliste. Mais il a cette simplification qui permet vraiment de déceler les émotions et ça rend très très bien. Donc il y a vraiment un côté hyper intéressant parce que l'histoire est super agréable à suivre et on a vraiment ce côté cette mélancolie en fait qui s'installe quand on le lit. On a tous des situations qui pourraient presque avoir été les mêmes en fait. Et c'est ça qui est cool à lire ce Boken Shonen, c'est que c'est vraiment très agréable et très sympathique à lire.
Et si je peux rajouter...
Vas-y.
Notamment ce manga, comme tu as pu dire, c'est des souvenirs. Est-ce que justement du fait que ce soit des souvenirs, les personnages n'ont pas forcément dessiner dans le détail, parce que ça reste des souvenirs, et les souvenirs restent vagues. Mmh. Peut-être ça pourrait être ça, je sais
pas. Tout à fait. Ça doit jouer. Mais les adultes aussi sont dessinés avec cette espèce de visage un petit peu effacé, hein, beaucoup plus simple en termes de graphisme. Mais ça marche très très bien. Ça donne vraiment, alors pour ma part en tout cas, ça donne vraiment envie d'essayer de découvrir ce qu'a pu faire l'auteur à côté. Et c'était un bon moment. En plus, c'est vraiment je vais pas dire une lecture feel good, parce que il y a quand même le problème de la mélancolie, c'est ce côté sentiment de joie mêlé d'un peu de tristesse. Mais c'est vraiment un bon moment à passer, et c'est vraiment très agréable à lire. Et c'est des petites histoires qui, indépendamment les unes des autres, se tiennent très très bien. Donc ça peut être un petit livre à picorer gentiment, un petit chapitre un soir, et puis hop, tranquille.
Oui, bien sûr, surtout que là, ça fait quelques pages que je feuillette. Il n'y a pas forcément beaucoup de texte, c'est surtout beaucoup d'images.
Ouais.
Et c'est aussi agréable à lire pour quelqu'un qui forcément ne lit pas beaucoup de mangas comme moi. Ce qui peut amener potentiellement aussi à lire ce genre de manga, moins de texte, plus de visuel. C'est aussi intéressant, c'est une autre façon de faire.
Effectivement. Ça peut permettre justement de se mettre... Alors, et là, c'est d'autant plus parlant avec ce manga-là, c'est qu'on se rend bien compte que le manga, ce n'est pas que du Dragon Ball, du Naruto. On a un autre type de graphisme très loin de ce qu'on peut imaginer sur des mangas classiques.
Tout à fait.
Alors que c'est un manga classique. C'est le côté paradoxal. Tiens, Quentin, je te laisse donner les références, le nom, l'auteur et puis l'éditeur.
Bokken Shonen, si je le prononce bien.
Ouais.
Rêve d'enfance, donc écrit par Mitsuru Adachi. Et qui, du coup, ça c'est celui qui a écrit. Et aussi, je vois Nobinobi Genki. Donc ça,
c'est ça, c'est l'éditeur. Nobinobi et Genki, c'est la collection en fait dans laquelle c'est publié.
Voilà. Bah voilà. Bon, moi, je découvre des choses.
Eh ben, c'est le but de la radio, c'est le but de l'émission La Caisse de Seb, c'est de vous faire découvrir plein de choses, plein de mangas ou de BD ou de comics vers lesquels vous n'auriez pas forcément été. On va continuer sur la partie jeunesse avec complètement autre chose. On va aller du côté des toutes premières BD avec une BD qui est publiée aux éditions Mammouth, M-A-M-U-T. C'est une collection qui s'appelle Ma première BD. C'est à partir de 9 ans. Il y a un plus 9, donc j'imagine que c'est à partir de 9 ans, même si je pense que ça peut se lire avant. Et ça s'appelle La géante Sam et le château sanglant. Et c'est de Miguel B. Núñez. Donc je pense que ça doit être de la BD espagnole. Est-ce que tu veux nous donner ton avis dessus?
Bien sûr. Et c'est vrai que quand on le prend à première vue comme ça, ça fait très enfantin. C'est vraiment des dessins simples, sans forcément beaucoup de détails, et aussi des dessins un peu grossiers, familiers, qui ne sont pas dans le détail. Et c'est vrai que les dessins, dès qu'on ouvre la BD, c'est des grosses plaquettes, avec aussi pas forcément beaucoup de texte, mais des gros dessins. Donc c'est quelque chose d'assez grossier. Et donc oui, pour des enfants, c'est plus simple à lire qu'un manga, par exemple. C'est aussi coloré, donc ce qui attire aussi l'œil des enfants.
Ouais, ça va être un côté très très attractif. Alors effectivement, je vais reprendre peut-être non, mais regarde là pour l'instant des détails. C'est un dessin qui a un ancrage qui est très fort. En fait, les bordures, c'est ce qu'on appelle l'ancrage, qui est quand même assez fort, qui donne un côté un peu cartoon au dessin. Les pages, on est sur une couverture souple, chose qui se fait pas mal sur les ouvrages jeunesse, mais qui est une couverture cartonnée sans bordure. Ça donne un aspect qui est vraiment assez agréable au bouquin. Et puis on a ce côté effectivement grande case avec des bulles et des onomatopées qui prennent beaucoup de place, qui donnent un côté très agréable en fait et facile à lire, puisque le cheminement de l'œil se fait vraiment très très simplement. Mais de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Sam, qui est une jeune fille qui a apparemment une capacité particulière, celle de pouvoir grandir. Elle devient très 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 grande. Et puis un jour, elle va rencontrer une chauve-souris vampire. Sa maman la reconnaît vite que c'est une vampire. Et puis, en compagnie de cette chauve-souris, elle va essayer d'aller dans la ville où vit cette chauve-souris pour pouvoir aller dans le château de cette chauve-souris vampire. Mais malheureusement, dans la cité de Walpurgis, si je ne me trompe pas de nom, eh bien, les gens ne sont pas très très fans des gens qui ne sont pas tout à fait comme eux. Il y a un loup-garou, par exemple, qu'ils n'aiment pas trop. Il y a effectivement la chauve-souris vampire qu'ils n'aiment pas trop. Il y a cette petite fille qui est capable de très très grandir et qui n'a pas peur de grand-chose, qui ne plaît pas trop. Donc ça parle de l'acceptation de soi, ça parle de la différence, et puis ça parle, c'est fantastique. Donc il y a un côté un petit peu horrifique avec ce monde, comment dire, cette chauve-souris, cette petite fille qui a un look un peu gothique en fait, avec son t-shirt noir, son débardeur noir, attends, c'est un débardeur avec sa tête de mort au milieu. Et c'est plutôt drôle, on a quelques surprises qu'on n'attendait pas forcément. Les personnages sont plutôt sympas, enfin voilà, ça peut se lire très facilement pour les enfants. À lire accompagné ou en solo, hein, si les enfants ont un niveau de lecture suffisant. Mais il n'y a pas de violence à proprement parler. Si vous voulez lire avec vos enfants, ça peut se passer sans trop de problèmes et ça marche très très bien. C'est Corentin qui est en train de rigoler, en train de lire la BD en même temps.
Bah oui, tu parles de sans violence et là je tombe par exemple sur une image de justement ce loup-garou qui mange une fesse de cet ogre. Donc oui, c'est pas du tout violent, c'est même assez drôle parce que les dents sont démesurées, c'est des grosses dents, alors que sur cette image, c'est plutôt des petites dents, donc je trouve ça assez drôle quand même.
Il y a un côté vraiment accentuation des choses pour donner pour donner de l'humour, en fait, on fait des choses un peu plus grosses, des grosses ficelles, mais ça marche.
C'est ça.
c'est une bonne lecture, c'est à lire accompagné, alors un adulte va forcément... quoique non, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment bien, donc voilà. Donc à lire principalement avec les enfants, si vous gardez une âme d'enfant, bah lisez-le aussi, ça ne pourra que vous faire plaisir. Il est 19h15 sur le 101.5 de Radio G, et puis je vous propose de faire une petite pause musicale. On a parlé un petit peu manga rapidement, là je vous propose de faire une pause musicale avec Tot Musica qui est issue de la bande son de One Piece, le film Red. Une petite dédicace à ma fifille qui m'a demandé si on pouvait en mettre. Alors j'ai dit bon bah d'accord, on va encore remettre du Uta. Donc bisous ma petite chérie et on se retrouve tout de suite après.
ただ海の中未来を越えその後がブレイなどとかを出せなきブレイには忘却を鎖骨の際には終止符を膝向けにプレイプレイプレイ無条件絶対激高ならシゲダソン生かせばいいとこでもシゲダソン嘘Never stay away. Oh, hey, oh. 誓いたて死ゆてにしておく。ひれ伏された mission. 逃亡の果てのゾーン。希望。忘れじの灯火。まとう。その身が月まで奏でよう。つあがめよ全てを照らし出す光をいざ無限にプレープレープレーその後のプレイだと解を残業劇プレイすら忘却を鎖骨の際には終止符を
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Vous venez d'entendre Tot Musica, extrait de la bande-son du film One Piece Red. On discutait hors antenne avec Corentin, donc ça c'était la version japonaise, c'est vrai que la version, toutes les chansons ont été doublées en version française par Oshi. Elle s'en sort plutôt bien, ce qui est plutôt cool, donc voilà, n'hésitez pas. Il ne doit plus être disponible au cinéma pour l'instant, mais... Faites-vous plaisir si vous avez l'occasion, lorsque ça sortira en DVD ou en Blu-ray, je ne sais plus, je suis trop vieux en fait maintenant. En streaming,
oui, je pense que sur les plateformes, c'est plus ça qu'on va trouver aujourd'hui. Après, peut-être en CD, DVD, c'est ce qu'on va retrouver. En Blu-ray, je ne suis pas sûr. Je fais partie un peu des jeunes qui sont plutôt sur des sites de streaming et de vidéos en ligne. Bon, bah.
En tout cas, allez-y de manière légale, c'est ça qui est important. Donc on est toujours dans la case de Seb, on parle toujours de BD, on va peut-être faire beaucoup de trucs jeunesse en fait, j'en ai encore au moins deux, on va faire un jeunesse d'abord et puis après on va parler d'un gros truc qui est pas vraiment de la BD mais qui est quand même un peu de la BD, mais on a fait beaucoup de teasing, on va en faire encore un petit peu de teasing et puis on verra ça tout après. Là, je vais vous parler d'une BD à un tout petit format qui est pas tout à fait carré, même rectangle, hein, même si on sait que les carrés sont des rectangles, mais pas tout à fait pareil. Bref, j'ai séché les cours, n'oubliez pas. Là, on va parler de Marilou, qui est une BD, une petite BD publiée aux éditions Delcourt, donc une BD jeunesse. C'est Fabien Toulmé au scénario et Olivier Dutoux au dessin. Donc Olivier Dutoux, c'est Les Petits Diables, ça te parle peut-être? Une toute petite série de 33 tomes, je crois. Donc, non, ça ne parle pas.
Non, pas forcément.
Et puis, c'est Ben Beka qui a fait les couleurs. Donc, voilà. Tiens, je te le passe, Corentin. Je vais raconter l'histoire pendant que tu le feuilles un petit peu, puis tu me donneras ton avis juste après. L'histoire, c'est celle de Marilou. Marilou, c'est une petite fille, une petite citadine, mais qui aime bien sa tablette, qui est bien accro aux écrans, qui aime bien l'odeur de la pollution, qui aime bien le bruit que t'entends tout le temps le soir. Et puis, ses parents, ils ont décidé, pour améliorer leur contexte de vie, d'aller vivre à la campagne. Et ben, la petite fille, elle est pas du tout contente, parce qu'elle a pas du tout envie de ça. Elle a besoin de technologie, elle a besoin de sa chambre, elle a besoin de ses posters, de sa chanteuse favorite. Et du coup, elle est pas vraiment contente après ses parents. Donc, elle va leur faire un petit cinéma. Mais les parents ne cèdent pas, ils sont partis à la campagne. Ben, ils vont vivre à la campagne maintenant. Et puis, par un concours de circonstances, la petite Marilou va tomber sur un âne et un rouge-gorge qui parle. Donc tu me parlais d'écologie tout à l'heure. Est-ce que tu peux me confirmer que dans la nature, les ânes et les rouges-gorges, ça parle pour de vrai?
Alors, ça parle entre eux. Mais si nous, on comprend le langage des ânes ou des rouges-gorges...
Ah, faut se poser des questions. D'accord, j'ai peut-être loupé un truc dans mon enfance, moi. Mais en fait, Marilou, elle est capable de les comprendre. Alors, l'âne s'appelle Gédéon Licorne, et le rouge-gorge n'a pas de nom, donc une petite bagarre entre les deux, puisque... comme l'âne a un nom, il se la pète un peu. Et puis, Marilou va pouvoir nommer ce rouge-gorge. Le truc qui est intéressant avec cette BD, c'est qu'on va avoir cette petite citadine qui est au contact de ces deux animaux, dont on ne sait pas vraiment s'ils parlent, hein. Attention, c'est peut-être tout dans la tête de la petite fille, va apprendre à découvrir la beauté de la nature. Et c'est ça qui est rigolo. Il y a plein de vannes, hein. C'est une BD humoristique, c'est une BD à destination des enfants, c'est pas une BD qui va être... chiante en mode full découverte de la nature avec des trucs bien compliqués. Non, c'est vraiment didactique, c'est vraiment rigolo. Et l'âne et le rouge-gorge vont faire découvrir à cette petite fille, bien malgré elle, à quel point la nature ça peut être sympa, à quel point les araignées peuvent être par exemple gentilles. Ça me fait très très mal de le dire en fait, parce que moi j'aime pas les araignées, ça a trop de pattes. Mais ça marche très bien, c'est très rigolo, c'est plutôt fun et c'est bien sympa.
Tout à fait. Alors moi, tu vois, quand je feuillette un peu le bouquin, je sais pas pourquoi, mais les dessins me font penser un peu à Kid Paddle. Comment ça a été dessiné?
Alors, il y a un petit peu de ça, ouais.
Je trouve que ça ressemble un peu, et dans la façon de l'histoire avec la famille, etc. Ça me fait penser un peu à Tom et Nana quand je regardais quand j'étais petit.
Tout oh, oui.
Sous format carré, c'est vrai.
C'était un format j'aime lire comme ça, ouais. Tom et Nana.
Et ça me fait penser un peu à Tom et Nana. Tom et Nana.
Ouais.
Eh ben, ça me fait penser à ça. Un mélange de Kid Paddle et de Tom Tom et Nana.
Bah, c'est deux bonnes références, hein. Donc, si ça, ça vous donne pas envie de le lire, je vois pas ce qu'il faut, ce qu'il vous faut de plus. C'est une BD qui est très mignonne, qui se lit facilement, bon, qui est forcément orientée plutôt jeune public, mais, qui les prend pas pour des ânes, justement, et, qui a un côté plutôt drôle. Alors, c'est pas à se taper les cuisses de rire, parce que, c'est pas un humour potache, vanne, comme on peut trouver dans Les Petits Diables. Il y a un côté bien touché avec ça. On s'adresse directement aux enfants par l'intermédiaire de Marie-Lou. Et puis ça, Fabien Toulmé, c'est quelqu'un qui sait bien justement parler aux gens dans la façon dont il écrit. Donc c'est plutôt cool. Et ça marche vraiment bien. Donc voilà, voilà.
J'ai rien d'autre à rajouter.
Rien d'autre à rajouter, à part peut-être le nom des auteurs, le titre et l'éditeur.
Alors, le nom des auteurs, Fabien Toulmé, Olivier Dutot et Bemk.
Benbeka, j'ai dit, moi. Je sais pas si c'est Bemk.
Et c'est aux éditions Delcourt. Donc, le nom, c'est Marie-Lou, la magie de la campagne.
Ben voilà. Donc, si vous avez des enfants qui veulent pas aller à la campagne, faites-leur lire ça. Je pense qu'ils auront tout de suite envie d'aller voir l'âne et le rouge-gorge chez papy et mamie, même si ça sent un peu la bouse.
Et de laisser la tablette de côté, surtout.
De laisser la tablette de côté, ouais. Pas faux, pas faux. On va parler, attends, on va passer à un gros bousin. Alors ça fait un moment que je l'ai, ça fait un moment que je cherchais un moment d'en parler. Vous savez que j'ai deux émissions, donc une émission qui s'appelle La Case de Seb, dans laquelle on parle de bande dessinée, et une émission qui s'appelle Les Voix du Scénarium, dans laquelle on parle de jeux de rôle. Alors si vous connaissez pas Les Voix du Scénarium, c'est de 22-23h, un mardi tous les 15 jours, sur Radio G, avec moi et puis plein de gens super sympas qui parlent de jeux de rôle, qui jouent aux jeux de rôle et puis qui font découvrir des jeux de rôle. Et bien des fois, c'est deux univers qui vont se collisionner pour créer un jeu de rôle. La bande dessinée est un support dans lequel on peut créer des jeux de rôle. On a déjà parlé de monstres, par exemple. On avait pu parler de Commando Barbare aussi. Et puis là, on va pouvoir parler d'une série. Alors, je connaissais pas du tout cette série-là en BD. Ça s'appelle comment, tu me dis, Corentin ?
Ça s'appelle Les Légendaires. Alors, quand j'étais petit, plus jeune, j'aimais bien prendre ces BD à la bibliothèque municipale de où j'habitais, quand j'étais plus petit. Et j'aimais bien parce que ça avait ce côté fantastique, et notamment toute une continuité des légendaires jeunes, enfants, et des légendaires adultes. Et c'est vraiment ce fil rouge tout au long qui m'a vraiment donné envie de lire Les Légendaires.
Alors pour résumer un petit peu, alors c'est pareil, moi je les ai pas lus, alors j'ai plein d'enfants, alors c'est un carton mondial Les Légendaires, hein. De ce que j'ai compris, parce qu'il y a une série animée, il y a une série de BD, il y a des spin-offs, il y a un manga qui reprend la même histoire que les BD, et de ce que j'ai compris, en fait c'est un groupe de héros qui, en affrontant un méchant, ils font une boulette, et tout le monde redevient des enfants.
Tout à fait.
Et parce qu'ils ont fait ça, tout le monde les déteste.
C'est ça. Et là, justement, ils ont une quête, c'est de redevenir adulte.
C'est une bonne quête, du coup.
Bah oui, c'est une très bonne quête. Redevenir normal.
Et du coup, est sorti aux éditions Black Book Edition, donc en collaboration avec Delcourt, donc l'éditeur de la BD Les Légendaires, un jeu de rôle complet. Alors là, pour l'instant, on a la boîte d'initiation. Donc c'est basé sur le moteur Chronique Oubliée de l'éditeur. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'on peut trouver là-dedans, dans cette boîte-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Hop, j'ouvre et puis tu pioches. D'accord ?
D'accord.
Allez, j'ai ouvert la boîte. Qu'est-ce qu'on trouve au début ?
Alors bien sûr, comme dans tout jeu, une notice.
Plusieurs livrets.
Plusieurs livrets. Ah oui, il y a plusieurs livrets.
Il y a trois livrets. Alors le premier livret s'appelle...
Introduction au jeu d'aventure.
Le deuxième, c'est d'aventure en aventure. Et le livret 3, c'est d'aventure en aventure, toujours. Donc je pense qu'on va avoir les règles qui vont rappeler un petit peu quel est le moteur Chronique Oubliée, et puis qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle, comment on joue. Et puis on doit avoir deux scénarios ou une campagne au long cours. Je vous avoue que je fais l'unboxing en même temps que vous, je ne l'ai pas lu. Donc ce sera l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Mais c'est plutôt sympa. Alors... Tout est illustré avec les designs des légendaires. Donc, si vous aimez la série déjà, ça va forcément vous plaire. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va regarder. Regarde, hop, là, on a une série de feuilles de personnages qui nous laisse deviner que on va probablement jouer les héros. Puisque si on te donne une fiche de personnage avec des caractéristiques, c'est forcément qu'on va jouer ces personnages-là. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et ils sont au nombre de 5, comme les légendaires en eux-mêmes. On a dedans aussi une grosse pochette avec plein de pions. Il y a marqué PAPV, donc je pense que c'est des points d'action et les points de vie. On a même des figurines, des petits pions qui représentent des personnages ou des monstres. Donc à mon avis, on va pouvoir jouer comme ça. On a un set de dés, un set de 5 dés de couleurs différentes et de tailles différentes. On a une série de cartes avec le nom des héros au dos. Donc ça veut dire que c'est peut-être des actions qu'ils vont pouvoir utiliser. Je vous en parlerai plus en détail après. Ah, je pense que c'est des sorts. Il doit avoir des sorts ou des compétences. Alors, si c'est basé sur le moteur Chronique Oubliée, c'est peut-être les voix qui vont justement servir à caractériser un peu plus les personnages et à les personnaliser un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il nous reste un petit truc encore dans le fond. Un magnifique écran avec plein d'infos d'un côté et un joli dessin de l'autre. Alors, c'est très radiophonique de vous parler d'un joli dessin, mais on a une grosse photo de groupe avec les héros d'un côté, d'autres héros de l'autre, qui sont peut-être des héros dans lesquels vont pouvoir se projeter les joueurs. Moi, je les connais pas, ces personnages-là. Ça te parle, toi ?
Ça me parle.
Donc, c'est peut-être des personnages exprès créés pour ça, avec Dark L, qui doit être le méchant de la série, si je me trompe pas, dans le fond. Donc, ouais, c'est bien stylé. Alors, un côté très... très BD, Heroic Fantasy, très légendaire, hein, quoi. Et puis on a un battle map, donc en papier plastifié d'un côté, enfin en plastifié des deux côtés, plié. Et puis on a les maps qui vont à mon avis servir à déplacer les petits jetons pour pouvoir jouer aux différents scénarios. Donc ça peut être vachement cool. Donc voilà pour ce petit unboxing comme ça en mode freestyle. Et puis on aura l'occasion, à mon avis, de je vais le potasser un petit peu pour pouvoir vous en parler un peu plus et de savoir à quoi on joue, comment on y joue, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Donc je ferai sans doute une double, puisque j'en parlerai à la fois dans la case de Seb, c'est ce qu'on vient de faire, et on détaillera peut-être un peu plus la partie règles et comment ça joue dans les voies du scénario. Vous avez vu le teasing, le cliffhanger, vous êtes obligé de suivre les deux émissions pour pouvoir avoir la totale, si c'est pas fabuleux ça. Bon, ben on a fait deux petites choses. Donc les légendaires, je vous redonne les infos. Donc ça, la boîte d'initiation s'appelle le Gantelet Ligamore, donc ça doit être le nom de l'aventure. Encore une fois, je reviendrai en détail dessus dans les voies du scénarium. Et puis, vous pouvez vous procurer cette boîte aux éditions Black Book Edition en partenariat avec les éditions Delcourt. Voilà, donc les légendaires, si vous avez des enfants qui aiment les légendaires, je pense que jouer dans l'univers des légendaires, ce sera quelque chose qui les satisfera fortement. Je vous propose de refaire une petite pause musicale. On va remettre un petit coup de musique japonisante, mais avec un truc un petit peu plus énervé que j'aime beaucoup. Alors le groupe s'appelle Anabi et la chanson, que la version française en fait, enfin version anglaise, je sais même plus me reconnaître ma langue, s'appelle Pardon Me, I Have to Go Now. C'est sur le 101.5 de Radio G.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Il est 19h37 et 30 secondes exactement. Mais le temps que je le lise, il y a des secondes qui sont passées. Voilà, bref, c'était fabuleux. On a écouté, du coup, c'était Anabi et Pardon Me, I Have To Go Now. Donc on a fait du japonais, on va rester au Japon avec deux petits mangas. Alors un qui est tout mignon, un qui est moins mignon. On commence par lequel, à ton avis? Lequel t'as envie, en fait, surtout qu'on commence?
Bah, le moins mignon.
Le moins mignon. Alors, on va parler de Witch's War. Je suis presque persuadé d'en avoir déjà parlé dans la radio, mais je ne suis même pas sûr, donc j'en reparle. Parce que il y a d'autres tomes qui sont sortis, que c'est plutôt sympa. Donc c'est un manga en je sais pas combien de tomes. J'ai mal fait mon taf, donc j'aurais pu. Mais ça peut être un manga en plein de tomes. La fiche de presse. Alors c'est un manga qui comporte actuellement 5 tomes au Japon. La série est en cours, donc on a 2 tomes pour l'instant en France. De quoi ça parle? Alors c'est un manga de Omura Kawamoto au scénario et dessiné par Makoto Shiozuka. Je te le passe pendant que je fais un bref résumé. Ok?
Merci beaucoup.
Alors, faut imaginer en fait des femmes qui, des femmes connues, qui le jour de leur mort en fait ont été happées dans un nouveau monde par une espèce de divinité féminine et qui leur dit voilà, maintenant on va vous faire vous battre ensemble et celle qui gagne, elle pourra se voir exaucer son souhait. Et en fait, ça va pas beaucoup plus loin. Hein, soyons honnêtes. Il y a des choses qui viennent parce que chaque personnage féminin a une entité, une personnalité et puis un destin hors du commun puisqu'on va pouvoir croiser Elisabeth Bathory, Jeanne d'Arc, Tomoe Gozen. Il y a 32 femmes hein, qui ont été recrutées comme ça et qui sont toutes qualifiées de sorcières puisqu'elles étaient beaucoup décalées par rapport à leur temps. Hein. Voilà, Jeanne d'Arc, on l'a pas cramée pour rien. Toutes ces femmes-là, elles étaient en avance sur leur temps, elles étaient gênantes, donc du coup, elles ont subi, leur destin. On va croiser Cléopâtre, on va croiser Marie-Antoinette. Il y a vraiment plein de personnages différents historiques qui vont se côtoyer dans ce manga et qui vont s'affronter parce que le but, c'est d'être la dernière survivante pour voir exaucer son souhait. Chacune de ces sorcières, du coup, puisqu'elles sont qualifiées de sorcières, va avoir à sa disposition un arsenal de sorcières, donc une sorte d'armure et une sorte d'arme qui lui permet d'utiliser ses capacités. Alors, c'est là où c'est très drôle et c'est très créatif, parce que graphiquement, ils ont essayé de donner des designs de personnages qui sont ultra stylés, avec des choses vraiment très particulières en termes de design, et leurs armes aussi sont très particulières, puisque fallait quand même... C'est du manga de bataille, hein. C'est du battle royale, donc leur capacité, leur pouvoir, ça va toujours être dans le plus, pour que ça fonctionne bien, et c'est très particulier. Alors, c'est sanglant, c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein. Il y a des bouts de bras, des bouts de corps qui disparaissent des fois dans des gerbes de sang, mais ça passe bien. Je pense que c'est un manga qui peut durer dans le temps parce qu'effectivement on a 32 femmes qui sont à s'affronter par deux, et puis c'est un peu comme un match de foot, hein, enfin comme un tournoi de foot. Les équipes s'éliminent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une et qu'il soit vainqueur. Donc je pense qu'il y aura aussi d'autres ressorts scénaristiques. Il y a un ressort scénaristique qui vient très très vite puisqu'il y a un personnage qui est on va pas dire un personnage très très chéri au Japon, mais ils ont un truc avec Jeanne d'Arc, qui est un personnage de dingue dans beaucoup de mangas. Et là, Jeanne d'Arc, elle a une place qui est quand même très importante, puisque c'est un des seuls personnages qui n'a pas de désir, qui n'a pas de souhait. Donc comment elle peut se battre pour se voir exaucer son plus grand souhait, vu qu'elle n'en a pas? Tu vois, le truc un peu... Donc c'est plutôt sympa. Graphiquement, c'est stylé, c'est très dynamique. Ça marche bien, donc c'est c'est pas prise de tête. C'est pas trop bête pour l'instant, donc ça marche bien. Si vous aimez un peu la bagarre, si vous aimez vous instruire aussi un petit peu, parce que il y a des personnages féminins, on a cité Marie-Antoinette ou Cléopâtre, qui vont certainement vous parler, mais il y a des personnages beaucoup moins connus qui vont aussi peut-être vous inviter à aller réfléchir et à essayer de découvrir qui étaient ces femmes et pourquoi elles ont vécu et pourquoi on a pu les considérer comme des sorcières, même si voilà, il y a le côté fantastique qui prend le dessus sur le reste du manga. Voilà. Donc normalement ils ont prévu un tome tous les 3 mois en sortie, donc ce qui est plutôt agréable, c'est vite de se sourruer dessus, puis ça laisse un petit peu de temps entre les temps, entre chaque tome. Ton avis, Quentin ?
Mon avis, c'est que c'est très intéressant, comme tu dis, en effet, là par exemple, je viens de tomber sur un peu une petite histoire de Jeanne d'Arc, qui c'était, donc c'est hyper intéressant, c'est pas juste placer des personnages comme ça à se battre et elles se tuent entre elles, donc ça amène un côté histoire. Et côté intéressant aussi, alors je sais pas si c'est ça, est-ce que chaque tome correspond à un combat particulier entre deux femmes ?
Pour l'instant c'est ça, mais le combat ne se finit pas dans le tome, il y a un petit cliffhanger où on te dit attention, la fin du combat sera dans le tome d'après, pour te donner envie.
Bah, ils ont bien raison, ça donne... c'est ça. Alors, je suis pas un grand mangeur de manga, mais ce côté histoire, je trouve que ça change un peu des simples mangas, si je puis dire. Donc c'est intéressant pour ceux qui aiment l'histoire. Ça permet de découvrir des personnages et qu'on connaît pas forcément.
Et ben c'est le but. Moi je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on va nous faire découvrir des personnages qu'on ne connaissait pas. Tomo Gozen par exemple, moi je connaissais de nom simplement, mais le fait de voir son combat m'a permis de comprendre certaines choses sur qui était cette femme.
Ben voilà, lors d'une discussion, si on pose la question c'est qui Jeanne d'Arc, et ben on peut dire.
Et moi, je l'ai vu décapiter ça. Un personnage. Non, je déconne.
Ah voilà, on peut dire, j'ai lu Witches Wars et je sais qui est Jeanne d'Arc et qu'est-ce qu'elle a fait.
Eh ben voilà. Je ne sais pas si ce sera exhaustif, mais au moins, c'est carré.
Voilà.
Je laisse redonner les noms, si t'en veux pas.
Ah bien sûr. Alors, le scénario, c'est de Omura Kawamoto et le dessin de Makoto Shizuka. Et c'est de l'édition Pika Édition.
Et c'est la série Witches Wars.
C'est ça.
Avec mon fabuleux accent anglais. je vais essayer de... Ah, je ne sais pas si je vais arriver à tout faire. Parce qu'en fait, le temps passe extrêmement vite. Il est déjà 19h45, moins 5 secondes. Je vais vous parler de beaucoup plus de tendresse. Avec un autre manga publié aux éditions de Nobinobi, collection Jinky. Et qui parle aussi d'enfance, mais qui parle de cette relation que peuvent avoir des parents avec leur enfant quand ils sont dans la monoparentalité. Ça s'appelle Père et Fille, et c'est de Asami Sekiya. Et en fait, on suit un jeune père, enfin un père que pas très vieux, je pense, mais qui est célibataire, et de sa fille qui est en première année de collège. Et c'est là où on se rend compte que ben on peut avoir un décalage entre la façon dont un père pense qu'il est cool et la façon dont les enfants peuvent nous considérer comme cool. Hein, ma chérie de chez moi, ma fille. Hein. Mais en gros, c'est très intéressant parce qu'on va pas suivre que ce duo père-fille, on va suivre aussi d'autres duos monoparentaux. Mais toujours à travers le personnage de Shima, la fille héroïne du manga. Et du coup, on va se rendre compte que d'autres familles monoparentaux peuvent avoir des comportements différents. On va avoir des distanciations où effectivement là la famille a eu un divorce et ils se sont distanciés pour une très bonne raison. Il y a aussi la maman qui essaie de surcompenser le fait qu'elle soit mère célibataire en achetant plein de trucs à sa gamine. Et puis on a effectivement le héros et Shima qui vivent une petite vie où c'est pas toujours aussi simple qu'il voudrait et que bah même si le papa il essaie de faire beaucoup de choses, bah il aimerait aussi avoir un peu son côté privé et puis sa fille est pas toujours lui laisse pas toujours cette possibilité là, donc c'est vraiment très touchant, c'est très mignon. Le dessin est tout simple, tout sobre, mais ça passe très très bien. C'est vraiment là on est vraiment dans la lecture feel good, même si vous connaissez des familles monoparentales, ça va quand même vous parler parce qu'il y a forcément une situation que vous aurez peut-être vue de loin si vous l'avez pas vécu, et ça marche très bien. C'est vraiment très agréable à lire. Je sais pas ce que t'en penses, Corentin.
Feuilleté comme ça, on voit quand même qu'on passe par divers émotions, divers sentiments. Ça passe de la tristesse à la joie, au rire, aux pleurs. Donc, ce qui se passe aussi dans les familles monoparentales, que j'ai pu voir de loin de certains de mes contacts. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose qui doit être très ressemblant des familles monoparentaux. Et ça va être très intéressant à lire. Et c'est quelque chose à lire, justement, dans un endroit calme. C'est pas un livre prise de tête. Je pense vraiment que ça se dévore facilement.
Ça peut se lire facilement, mais ça va quand même inciter à une réflexion derrière.
Je pense que ça peut faire susciter aussi des émotions vis-à-vis du lecteur.
Oui.
Comme tu dis, ça peut faire ressentir des situations que chacun a pu vivre de plus ou moins loin. Donc je pense qu'il est très intéressant, t'as raison.
Et je trouve ce manga d'autant plus intéressant qu'il va pouvoir aussi cibler plusieurs publics. C'est un manga qui pourra aussi bien parler aux enfants qui ont des parents dans des situations d'élever un enfant seul, mais aussi aux parents qui peuvent être dans ces situations-là. Je trouve que les deux publics peuvent se gérer, même si effectivement un adulte aura peut-être un regard différent et un enfant s'ennuiera peut-être un petit peu parce que ça manque d'action. Mais ça peut, pour l'enfant curieux, l'éclairer sur des situations et puis aussi lui permettre d'identifier des situations de son vécu qui vont justement lui permettre d'éviter ou de comprendre en fait des situations que vivent les adultes sans qu'elles leur soient expliquées directement. Donc c'est une petite BD qui est vraiment très touchante, qui est vraiment très agréable. Et ouais, mettez-le dans les mains de vos enfants. Il faut qu'ils aient un certain âge, mais à partir d'une dizaine d'années, je pense qu'ils peuvent comprendre déjà beaucoup de choses que les adultes ne veulent pas forcément dire. C'est ça qui est, à mon avis, c'est ça qui est utile, ce manga.
Ah oui, bah ça va être quelque chose de très touchant, puis on rentre aussi dans le côté intime d'une petite fille avec son papa. Donc dès lors qu'on rentre dans quelque chose d'intime, ça peut que nous surprendre et ça nous donne envie de découvrir qu'est-ce qui se passe.
Mais complètement. Je te laisse redonner les différentes mentions.
Tout à fait. Donc c'est Père et fille de Asami Sekiya, si je prononce bien.
Si tu prononces mal, tu prononces aussi mal que moi, donc tout va bien.
Bon bah ça va alors. Et c'est aux éditions Nobi Nobi Genki.
Nobi Nobi Genki. Et on va finir avec un autre ouvrage. Alors on parlait de jeux de rôle et de BD et d'adaptation l'un à l'autre. Il y a aussi un autre média qui est perméable à la bande dessinée, c'est celui du roman. Il y a beaucoup de romans qui sont adaptés en BD et vice-versa. Et là, on va parler d'un roman que moi, j'aime beaucoup, qui a été décliné sous de nombreuses formes. Et là, c'est une édition... Ça doit commencer à dater, c'est pas un ouvrage qui est sorti très récemment. Mais est-ce que tu connais La ferme des animaux de George Orwell?
Alors, non. Je veux bien qu'on fasse découvrir.
Eh bien, écoute, est-ce que tu peux décrire la couverture? Tiens, alors je donne les titres des auteurs. C'est donc La ferme des animaux de George Orwell, adapté en BD par Rodolphe et Patrice Lesourd. C'est publié aux éditions Delcourt.
Eh bien, la première page de couverture, on peut voir un cochon avec ce côté gentleman, donc ce nœud papillon ainsi que son chapeau, et avec un bout de paille dans la bouche et qui nous lance un regard, je dirais, méfiant ou un peu... il nous défiait du regard.
Ouais, je trouve que c'est plutôt bien résumé. Alors, George Orwell, tu connais certains de ses romans, j'imagine, quand même?
Oui, je connais certains de ses romans. Alors là, tout de suite, je ne pourrais pas te les citer.
1984, pour citer juste le plus célèbre?
Non, vas-y.
Mais c'est celui-là, 1984. Okay. Non, ça ne te parle pas.
Non. Bon.
Un autre excellent roman à lire, on en parlera une autre fois parce que c'est pas le thème ce soir. La ferme des animaux, en fait, c'est un roman où les animaux, un jour, décident de se rebeller contre le fermier et finissent par l'exclure pour lutter contre les mauvais traitements dont ils se trouvent, dont ils pensent être victimes. Et puis ils se disent que eux, ils sont capables de s'auto-gérer et de gérer cette ferme mieux que le fermier ne le faisait, et surtout de mettre tous les animaux sur un pied d'égalité. Cette histoire-là, elle est commencée à l'initiative des cochons qui vont dire établir un certain nombre de règles que je vais lire ici. Mince. Je me fais avoir. Parce qu'en fait, les cochons, ils vont éditer un certain nombre de règles. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce roman-là est une critique de, d'un... Pour moi, c'est une critique du régime communiste où on a voulu mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et puis que plus on avançait, plus on se rendait compte que bah, le pied d'égalité, il était valable pour certains, mais pas sur d'autres. Et les règles édictées par le cochon sont « Tout deux pattes est un ennemi, tout quatre pattes ou tout volatile est un ami, nul animal ne portera de vêtements, nul animal ne dormira dans un lit, nul animal ne boira d'alcool, nul animal ne tuera un autre animal, tous les animaux sont égaux. » Et au fur et à mesure du récit, ces règles-là vont être altérées, parce qu'on les a mal comprises, on les a mal lues. Et à chaque fois qu'elles vont être altérées, elles vont être altérées dans le sens des cochons qui vont devenir de plus en plus privilégiés et qui vont de plus en plus asservir les autres animaux pour leur propre bien-être. Alors là, si c'est pas une critique du communisme, je vois pas comment... Ou alors j'ai mal compris.
Une critique de la société en tout cas peut-être.
Une critique de la société, de toute façon. C'est vrai que le fait de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est quand même le leitmotiv à la base du communisme. Et ben là, on le retranscrit en BD de façon plutôt agréable. Ben, je te passe le bouquin.
Merci.
Puisqu'on va avoir ces animaux qui vont nous parler, qui vont s'adresser à nous. Et ça rend l'ouvrage peut-être plus facile à accueillir et à récupérer parce que on peut le digérer de manière un peu plus précise et efficace. Donc c'est un des romans, un de mes romans préférés. Puisque moi j'adore George Orwell, donc c'est un 1984 dont on parlait tout à l'heure, c'est un des romans qui a connu beaucoup d'adaptations l'année dernière ou là il y a deux ans, puisque le roman est tombé dans le domaine public et là la ferme des animaux c'est aussi une des adaptations qui existent. Celle-ci est plutôt efficace, le dessin fonctionne bien, et c'est une BD qui est plutôt fluide à lire, qui est plutôt souple, et ça marche vraiment bien. Les cochons, ils ont une espèce de caractère aussi qu'on identifie assez facilement. Donc
peut-être un caractère de cochon.
Un caractère de cochon. Je crois que personne ne l'avait fait avant, celle-là.
Eh ben, je ne sais pas. En tout cas, je suis fier si je suis le premier.
Eh ben, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas écouté toutes les émissions de radio, mais voilà, c'est un bon roman, c'est une belle BD à découvrir. Donc, c'est plutôt bon. Est-ce que tu as ton avis sur cette BD que tu es en train de feuilleter, là?
Alors, j'ai feuilleté vite fait et je suis arrivé à la dernière page et déjà, le mot fin, c'est en sang. Donc, je pense que ça en dit long sur la BD. Mais oui, on voit bien que au fur et à mesure de l'histoire, les cochons commencent à être de plus en plus habillés sans vouloir spoiler. Donc on se rend compte que oui, ils ont...
Attends, parle plus près de ton micro, on t'entend plus. Tu vois la différence?
Et du coup, je disais que oui, les cochons, au fur et à mesure qu'on avance dans la BD, sont de plus en plus habillés, donc ils ont une certaine supériorité par rapport aux autres, donc sûrement la société. Et je pense que c'est quelque chose d'assez constructif. Et que ça doit vraiment nous faire réfléchir sur la vie en société. Et ici, c'est vraiment par rapport au communisme. Pourquoi aussi par rapport à ce que tout le monde soit sur un pied d'égalité et pas sur un pied d'équité.
C'est clair. Alors, c'est l'interprétation que j'en avais fait. J'ai jamais lu d'analyse, en fait, de la ferme des animaux, mais ça me paraissait assez évident. Et puis, tu cites le fait que les cochons deviennent de plus en plus humains. Souvent, en BD, on anthropomorphise des animaux pour... mettre en avant des caractéristiques dans des histoires humaines. Là, ce sont des animaux qui vont devenir progressivement des humains. On met en avant le caractère de cochon qui devient un caractère, un trait humain au fur et à mesure que les cochons évoluent. Je te laisse redonner les différentes mentions, s'il te plaît, Corentin.
Bien sûr. Donc, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Donc, je suppose que c'était dessiné par Rodolphe et Patrice Lesourd.
Alors c'est scénarisé par Rodolphe et dessiné par Patrice Lesourd.
Voilà, merci pour la complémentaire. Et les éditions, du coup, c'est aux éditions Delcourt.
Dans la collection Ex Libris.
Ex Libris.
Parfait. Alors, hop, juste un truc, toc, que je suis nul à faire. That's all, folks. Il est 19h56 et pour qui vient de vous l'annoncer, c'est la fin de l'émission. Donc on va pouvoir clôturer tout tranquillement, on a un peu de temps, un peu de marge. Je voulais en profiter pour vous signaler que la radio j'ai un problème d'écouteur. La radio Radio G sera présent à Angers Geek Fest les 1er et 2 avril 2023. Et que à cette occasion, on a deux choses. Donc, on aura des ateliers sur place, que ce soit avec la case de Seb ou avec les voix du scénarium. Donc, avec la case de Seb, moi, ce que j'ai prévu, c'est d'aller me promener et de vous demander quelles sont, selon vous, les meilleures utopies ou dystopies, puisque c'est le thème de cette année, en BD, manga ou comics. Ce sera à vous de me répondre et on diffusera vos avis directement dans la case de Seb. Pour les voix du scénarium, on en reparlera dans les voix du scénarium. Et en attendant, en fait, j'ai la possibilité de vous faire gagner deux places. Donc n'hésitez pas à aller commenter dans nos réseaux sociaux pour pouvoir gagner ces places-là. Je ferai un tirage au sort parmi les commentaires. Mettez ce que vous voulez. Je m'en fiche, donc Instagram, Facebook. Je piocherai parmi les commentaires. Vous pourrez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur le www.radio-g.fr. Merci Corentin à toi d'être venu.
Merci à toi pour l'invitation.
Et ben, ce sera à réitérer. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours. Et en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben, vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire, ben, je vois de ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Vous êtes à l'écoute de Radio.